Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 6 juin 2024. Au Nigeria, une grève illimitée a démarré ce lundi à l'appel des syndicats après l'échec des négociations avec le gouvernement pour un nouveau salaire minimum. Élection en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa appelle à former une coalition gouvernementale.
Le Congrès national africain félicite le peuple sud-africain d'avoir une fois de plus démontré la force et la vitalité de notre démocratie. Les résultats envoient un message clair à l'ANC.
Les différentes équations de la classe politique sud-africaine dans la partie magazine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé ce lundi en Guinée où il entame une nouvelle tournée africaine. Claudia Sheinbaum devient la première femme élue présidente du Mexique. Le procès du fils du président Biden, enterré pour détention illégale d'armes, s'est ouvert ce lundi. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Et c'est en Guinée que nous commençons. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé aujourd'hui en Guinée où il entame donc une nouvelle tournée dans plusieurs pays africains. Les précisions de John Lindon.
C'est la première visite en Guinée de Sergueï Lavrov depuis 2013, selon Moscou. Le chef de la diplomatie russe a été accueilli la nuit dernière à l'aéroport international de Conakry par son homologue guinéen Maurice Anda Kouyaté. Une audience avec le président Mamadi Doumbouya est prévue d'après le ministère guinéen des Affaires étrangères. Selon l'agence d'information russe TASS, Sergueï Lavrov doit rencontrer des dirigeants politiques de ce pays riche en ressources naturel. Après Conakry, Sergueï Lavrov est aussi attendu au Tchad mercredi et probablement une possible étape au Burkina Faso et au Congo-Brazzaville. La Russie n'a cessé ces dernières années de renforcer ses positions sur le continent africain. Vladimir Poutine a invité des dirigeants africains pour un sommet à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Une réunion des ministres des Affaires étrangères africains autour de Lavrov est aussi prévue cet automne à Sochi en Russie, à une date encore non précisée.
La justice sénégalaise a condamné aujourd'hui le militant politique Ba Diakité et le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Ndao à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles après leurs propos ciblant le premier ministre Ousmane Sonko et ses récentes déclarations sur l'homosexualité. Les deux hommes jugés en flagrant délit par le tribunal de Dakar le 27 mai en outre condamné les deux personnes à payer chacun une amende de 100 000 francs CFA. Au Nigeria, une grève illimitée a démarré aujourd'hui à l'appel des syndicats après l'échec des négociations avec le gouvernement pour un nouveau salaire minimum. Le point avec Rosine Monizero.
Les principaux syndicats, le Congrès du travail du Nigeria et le Congrès des syndicats, ont exhorté les travailleurs à ne pas aller au travail après que le gouvernement a refusé d'augmenter le salaire minimum au-delà de 60 000 naira, environ 41 euros par mois. À Abuja, des bureaux gouvernementaux, des stations-services, tribunaux ont fermé lundi matin et les écoles aussi. Les vols internes ont été annulés et de longues files d'attente se sont formées devant les portes verrouillées de l'aéroport de la ville qui sera à nouveau fermé mardi. À Abuja, la présence de soldats et de personnel de sécurité ont été renforcées dans les rues. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie. Monsieur Tinubu a appelé à la patience pour permettre à ces réformes de porter leurs fruits, affirmant qu'elles contribueraient à attirer les investissements étrangers.
La Grande-Bretagne a l'intention de commencer à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda le 24 juillet, a déclaré aujourd'hui un avocat du gouvernement. Le premier ministre Rishi Sunak a affirmé que les vols d'expulsion ne partiraient pas avant les élections du 4 juillet, mais il a promis qu'en cas de victoire, il commencerait peu de temps après. Le parti travailliste, qui mène d'environ 20 points dans les sondages d'opinion, s'est engagé, lui, à supprimer le plan s'il est élu. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reconduit aujourd'hui le premier ministre Mostafa Mabbouli dans ses fonctions pour former un nouveau gouvernement. Il a présenté la démission de son cabinet suite à la réélection de M. Sisi pour un troisième mandat l'année dernière. Abdel Fattah Sisi a demandé au nouveau gouvernement de se concentrer sur la réduction de l'inflation et la régulation des marchés, ainsi que sur l'attraction et l'augmentation des investissements locaux et étrangers, selon la présidence.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mexique, Claudia Sheinbaum, de la gauche au pouvoir, a été élue présidente. L'ex-maire de Mexico a obtenu plus de 58% des voix, selon des résultats partiels. C'est la première fois que les Mexicains élisent une femme à la tête du pays. Plus de 98 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Nathalie Barge.
Claudia Sheinbaum devance l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez qui obtient environ 27% des voix. Le centriste Jorge Alvarez est crédité de quelque 10% des voix. Le Morena et ses alliés ont obtenu par ailleurs la majorité au Congrès et probablement au Sénat. Le parti conserve Mexico avec la victoire de Carla Brugada. Madame Sheinbaum devra relever le défi du narcotrafic et de la violence des cartels. Le Mexique enregistre depuis des années environ 30 000 homicides par an, soit 80 par jour. Depuis 2006, le pays a enregistré 450 000 meurtres et 100 000 disparitions. Pendant la campagne, au moins 25 candidats aux élections locales ont été assassinés. Nous conduirons le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité, a déclaré la présidente élue, promettant de s'attaquer aux causes de la violence, de renforcer la garde nationale et d'adopter une politique zéro impunité. Elle devra aussi gérer la crise migratoire avec les États-Unis. En 2023, les autorités américaines ont arrêté 2,4 millions de migrants clandestins à la frontière, dont un tiers de Mexicains. Madame Sheinbaum prendra le 1er octobre le relais du président sortant, Andrés Manuel López Obrador, pour un mandat de 6 ans.
Ici aux États-Unis, le procès pour détention illégale d'armes du fils de Joe Biden, Hunter, a débuté ce lundi au tribunal fédéral de Wilmington dans l'État du Delaware. Le point avec Abdourahman Dia.
Hunter Biden, 54 ans, est arrivé au tribunal pour ce premier jour consacré à la sélection du jury, accompagné par sa femme ainsi que sa belle-mère Jill Biden, épouse du président américain. Dans un communiqué, Joe Biden a indiqué qu'en tant que président, il ne commenterait pas la procédure lancée par le ministère de la Justice. Mais en tant que père, j'ai un amour infini pour mon fils, j'ai confiance en lui et je respecte sa force, a déclaré le locataire de la Maison Blanche. Hunter Biden a plaidé non coupable en octobre dans cette affaire. Un jury de Wilmington devra se prononcer sur 2 chefs d'accusation portant sur des mensonges présumés dans les documents nécessaires à l'achat d'un revolver en 2018 et un troisième sur la possession illégale de cette arme. Il a par ailleurs été inculpé en décembre de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'obligation de payer 1,4 million de dollars d'impôts. Il a également plaidé non coupable dans ce dossier.
La vice-présidente américaine Kamala Harris se rendra le 15 juin à Lucerne en Suisse pour participer à la conférence sur la paix en Ukraine, a annoncé la Maison-Blanche ce lundi dans un communiqué. Plus d'une centaine de pays et d'organisations se sont engagés à participer à ce sommet en Suisse. Selon Volodymyr Zelensky, auquel la Russie n'est pas invitée, la Chine a, elle, estimé qu'il lui serait difficile d'y participer si Moscou n'était pas conviée. Le champion du Brexit, Nigel Farage, a annoncé aujourd'hui sa candidature aux élections législatives britanniques du 4 juillet pour le parti nationaliste Reform UK. Lui qui avait indiqué il y a à peine 10 jours qu'il ne serait pas candidat, a affirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse avoir changé d'avis. « Je serai candidat dans la circonscription de Clacton du sud-est de l'Angleterre », a-t-il déclaré dans son style haut en couleur habituel, ajoutant qu'il allait également prendre la tête du parti anti-immigration et anti-politique climatique Reform UK. En Iran, le président du Parlement, le conservateur Mohamed Bagheer Gharibaf, s'est déclaré aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle anticipée du 28 juin, pour laquelle 80 Iraniens ont déposé leur candidature. La présidentielle anticipée vise à remplacer le président Ibrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. Les candidatures devront être validées d'ici au 11 juin par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu, dominé par les conservateurs et chargé de superviser le processus électoral et la campagne débutera le lendemain. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a salué aujourd'hui d'importants progrès dans l'acheminement de l'aide humanitaire en Haïti avec la reprise des vols vers l'aéroport international et le rétablissement de l'accès à un bidonville de la capitale Port-au-Prince en 2 semaines en mai. 615 tonnes de riz, de haricots, d'huile végétale ont été distribuées à près de 93 000 personnes.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Alexandrine Ollognon.
Grève illimitée au Nigeria à l'appel des syndicats après l'échec des négociations avec le gouvernement pour un nouveau salaire minimum au-delà de 60 000 naira par mois. Dans la capitale Abuja, des bureaux gouvernementaux, stations-services et tribunaux sont restés fermés ce lundi matin. Les vols intérieurs ont été annulés et l'aéroport sera à nouveau fermé demain mardi. Les syndicats protestent également contre une hausse des prix de l'électricité. Le site de vente de vêtements Shein devrait publier dans les jours à venir un projet d'entrée en bourse à près de 60 milliards d'euros à Londres après avoir renoncé à Wall Street, indique lundi plusieurs médias britanniques citant des sources proches du dossier. Fondé en 2008, le site de vente en ligne Shein a rapidement conquis le marché mondial de la mode éphémère ou fast fashion. Le transport aérien s'attend à battre des records en 2024, laissant un peu plus la crise du Covid-19 dans le rétroviseur. Près de 5 milliards de passagers, un chiffre d'affaires tutoyant les 1 000 milliards de dollars. Effacer les 4,54 milliards de voyageurs de 2019 avant la pandémie, l'Association internationale du transport aérien prévoit désormais de transporter 4,96 milliards de personnes cette année. Elle a fait l'annonce ce lundi lors de son assemblée générale à Dubaï.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Un footballeur malien de Tottenham en Premier League, victime d'un vol avec violence à Cannes.
Yves Bissouma s'est fait voler une montre d'une valeur de 300 000 euros d'après une source policière. Un séjour dans un hôtel de luxe situé sur la Croisette. Le footballeur de 27 ans rentrait de soirée vers 4 heures dimanche matin avec sa compagne, selon cette source qui confirme une information du journal local Nice Matin. Ils se sont arrêtés en voiture devant leur hôtel quand deux hommes en cagoulé se sont approchés en courant. Monsieur Bissouma a tenté de se réfugier à l'intérieur, mais il a été attaqué avec du gaz lacrymogène par les deux individus qui lui ont pris sa montre avant de s'enfuir en courant.
En France, Saint-Étienne vendu au groupe canadien Kilmer Sport Ventures.
L'AS Saint-Étienne, promu en Ligue 1 de football, a annoncé ce lundi avoir été acheté par la société canadienne Kilmer Sports Ventures. L'homme d'affaires parisien Bernard Caillasso, 70 ans, et l'entrepreneur local Roland Remeyer, 78 ans, ont vendu leur part dans le club stéphanois dont Kilmer Sport devient l'unique actionnaire selon un communiqué. Le nouveau président du club légendaire sera le Sud-Africain d'origine grecque Ivan Kassidis, 59 ans, considéré comme l'architecte de ce rachat. Président de Kilmer Sport, il a dirigé Arsenal pendant 10 ans et l'AS Milan durant 4 années. Je sais ce que signifie Saint-Étienne. Je suis très fier de faire partie de l'histoire du club et d'essayer de le ramener là où il était, a-t-il déclaré. Le club stéphanois avait été mis en vente une première fois en 2018 sans succès, puis en 2021.
Chelsea nomme l'Italien Maresca, coach élevé et expérience limitée.
Le club anglais a jeté lundi son dévolu sur l'Italien Enzo Maresca, entraîneur de 44 ans à la cote élevée et l'expérience limitée, pour tenter de réenchanter Stamford Bridge, ballotté par une instabilité chronique sur et en dehors du terrain. L'Italien venu de Leicester, tout frais champion de deuxième division Championship, prendra ses nouvelles fonctions au 1er juillet 2024 dans le cadre d'un contrat de 5 ans avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club de l'Ouest londonien. Maresca a soigné son CV en dirigeant les jeunes de Manchester City avant d'être promu dans le staff de Pep Guardiola durant une saison 2022-2023. Le club, aussi titre de champion d'Angleterre, dont le dernier en 2017, n'est pas réputé pour sa patience, plutôt pour ses exigences. La mission de Maresca est claire, raccrocher au plus vite le wagon de tête tracté par Manchester City, Arsenal, Liverpool ou encore Aston Villa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir a perdu la majorité absolue aux élections législatives du 29 mai. Kate Barlett fait le point sur une nouvelle ère politique qui se dessine pour la nation arc-en-ciel. Le récit est de Rosine Monizero.
Un ancien président sud-africain s'est un jour vanté que le Congrès national africain gouvernerait jusqu'à ce que Jésus revienne sur terre. Une plaisanterie circule actuellement dans le pays, selon laquelle Jésus doit être revenu, compte tenu de la raclée que l'ANC a subie lors des élections générales de cette semaine. Le parti au pouvoir a perdu pour la première fois sa majorité absolue au Parlement, n'obtenant que 40% des voix. C'est un parti affaibli que son secrétaire général, Fikile Mbalula, a fait ses premières remarques publiques, reconnaissant qu'il n'y a rien à célébrer, mais que c'est la volonté du peuple et c'est ce que nous devons accepter.
Le Congrès national africain félicite le peuple sud-africain d'avoir une fois de plus démontré la force et la vitalité de notre démocratie. Les résultats envoient un message clair à l'ANC. Nous souhaitons assurer au peuple sud-africain que nous l'avons entendu, que nous avons entendu ses préoccupations, ses frustrations et son mécontentement.
Monsieur Mbalula a souligné que, contrairement à certaines informations, le parti ne demanderait pas au président Cyril Ramaphosa de démissionner. Quant à savoir avec qui l'ANC pourrait entrer en coalition, il a déclaré que le parti s'engageait avec d'autres partis, sans donner de précision. David Everett, professeur à la Wits School of Governance de Johannesburg, a déclaré qu'il soupçonnait que presque tout est encore possible. L'Alliance démocratique, ou DA, principal parti d'opposition, a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix, avec plus de 21%. Les milieux d'affaires auraient préféré le voir dans une coalition, mais certains membres de la ANC hésitent à s'allier avec eux, car ils sont considérés comme un parti blanc et préfèrent s'allier à un parti radical, comme les combattants pour la liberté économique de Julius Malema.
These elections...
Well, we have not necessarily taken extra measures. We have backed all political parties to become, and we hope that there will not be any necessity for any of us in the security sector to come in and to interfere.
Le nouveau parti Umkhonto weSizwe, ou MK, dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, a été l'un des principaux bouleversements. Avec environ 14% des voix, ce parti qui vient de voir le jour a grignoté dans le camp de l'ANC. Ironie de l'histoire, c'est Jacob Zuma qui avait déclaré que l'ANC resterait jusqu'au retour de Jésus. Monsieur Zuma, 82 ans, a des comptes à régler avec l'ANC qui l'a contraint à démissionner de la présidence en 2018 à la suite de scandales de corruption. Samedi, l'ancien pilier de l'ANC, devenu perturbateur, a appelé à un retard dans la déclaration officielle des résultats, alléguant un trucage et exigeant un nouveau décompte. Il n'a fourni aucune preuve de ses allégations et l'élection de mercredi a été largement saluée comme étant libre et équitable.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. 9 pays africains figurent parmi les 10 crises de déplacement de population les plus négligées dans le monde selon un classement annuel publié ce lundi par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Comme en 2022, le Burkina Faso se trouve en première position du classement. Pour un aperçu général de ce rapport, Alexandrine Ologno a joint Marine Olivesi, responsable plaidoyer au Burkina Faso du Conseil norvégien pour les réfugiés.
NRC analyse les crises de déplacement qui ont causé plus de 200 000 déplacements internes dans un pays en 2023. Et sur la base de cette liste, essaye de regarder des indicateurs très précis en termes de mobilisation financière, politique et médiatique autour de ces crises. Et donc, on établit un classement sur la base de ces trois indicateurs. Et cette année encore, le Burkina Faso se retrouve en haut du classement parce que non seulement il y a toujours eu beaucoup de déplacements qui ont eu lieu dans le pays en 2023, mais face à cette crise, il y a eu très peu de mobilisation financière. Il y a environ un peu moins de 40% des financements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins vitaux de la population seulement qui a été mis sur la table et qui a été rendu disponible. Donc moins de 40%, c'est très peu. Il y a eu quasiment aucune mobilisation politique, diplomatique, internationale pour résoudre la crise. Et enfin, en termes d'attention médiatique, on voit aussi que très peu d'articles, très peu de reportages traitaient de la dimension humanitaire de la crise au Burkina. On a fait un point de comparaison, par exemple, pour chaque article écrit sur le Burkina Faso en langue anglaise l'année dernière, il y avait 33 articles qui mentionnaient Taylor Swift.
En clair, qui néglige ces crises? Est-ce la communauté internationale, les États dans lesquels se déroulent ces crises ou les médias?
Alors là, on parle surtout de la communauté internationale dans son ensemble. C'est-à-dire, ça peut être les médias, ça peut être les représentations diplomatiques, ça peut être les organismes qui financent aussi bien la réponse humanitaire que l'aide au développement dans ces pays. C'est tout un ensemble d'acteurs, mais on parle vraiment là de la négligence internationale, on va dire. On sait aujourd'hui, on voit que certaines crises captent énormément d'attention médiatique, politique, diplomatique. On le voit aujourd'hui avec la crise à Gaza, on l'a vu avec la crise en Ukraine. Ce n'est pas pour dire que ces crises captent trop d'attention par rapport à d'autres. C'est pour dire que la souffrance, qu'elle ait lieu à Gaza, qu'elle ait lieu au Burkina, qu'elle ait lieu en Ukraine, devrait susciter le même niveau d'attention médiatique, financière, diplomatique. Et c'est ce qu'on regrette, mais c'est ce qu'on essaie aussi de corriger un petit peu en émettant ce rapport tous les ans pour mettre un petit peu plus de lumière justement sur les crises qui d'habitude passent inaperçues de l'attention internationale.
Alors, quel est le message que vous désirez faire passer avec ce rapport et comment faire pour sortir ces crises de la négligence?
Le message, c'est qu'il est possible de faire plus. Quand on voit des chiffres sur des millions et des millions qui manquent pour répondre à une réponse humanitaire dans un pays, on se dit, bon, c'est beaucoup d'argent, mais on sait que quand il y a une volonté politique, on peut trouver de l'argent pour répondre à une crise humanitaire.
Marine Olivesi, responsable plaidoyer au Burkina Faso du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Nigeria compte la plus grande population de jeunes au monde, environ 70% des quelque 207 millions d'habitants selon le Worldometer, un observatoire de la population à l'échelle mondiale. Mais pendant des décennies, la représentation et l'inclusion des jeunes dans la politique nigériane sont restées faibles. Mais certaines organisations de jeunes et associations à but non lucratif tentent de changer cette situation en demandant des sièges réservés et une révision du coût d'acquisition d'un formulaire de candidature. Timothy Obiezu nous en parle depuis Abuja, le récit est de Gabi Dorsil.
Aspirant politicien Jeffrey Netochukwu Nwokolo dirige la branche jeunesse de son parti politique, le People's Democratic Party, dans sa ville natale d'Ugwoba, dans le sud-est du Nigeria. Cet avocat de 29 ans affirme que ce poste ouvre la voie à son ambition de briguer un siège au Parlement lors des prochaines élections.
Pour l'instant, je ne me suis pas présenté aux élections et c'est tout à fait intentionnel et délibéré. Je crois donc que ma vie est un message et pour moi, il y a une feuille de route que je suis. Mais je crois vraiment que la prochaine fenêtre électorale me verra participer au scrutin.
Les enjeux ne pourraient être plus élevés, selon Nwokolo.
De 1999 à aujourd'hui, ma ville, qui compte plus de 21 villages, n'a jamais produit de commissaire dans l'État. Ma ville a été négligée, que ce soit au niveau de l'Assemblée régionale, de la Chambre des représentants ou du Sénat. Nous n'avons vraiment pas eu de place à la table des négociations. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter.
Nwokolo espère réussir, mais la représentation des jeunes dans les postes électifs au Nigeria est très faible malgré la jeunesse de la population. L'année dernière, moins de 4% des 360 postes du Parlement ont été remportés par des jeunes, une augmentation d'1% par rapport à l'élection précédente en 2019. Le coût élevé des élections, les barrières institutionnelles et l'apathie sont quelques-unes des raisons qui expliquent la faible représentation des jeunes.
The cost of nomination forms have continued to increase. Le coût des formulaires de candidature a continué d'augmenter. Je n'arrive pas à comprendre. Même les partis qui sont censés être au service du peuple vendent leurs formulaires 20 millions à 30 millions de naira. Je ne sais pas quoi dire. C'est l'une des tentatives les plus drôles pour prétendre vouloir résoudre les problèmes.
En 2018, le Nigeria a adopté une loi assouplissant les exigences constitutionnelles strictes relatives à l'âge requis pour se présenter aux élections afin d'inciter davantage de jeunes à participer. Mais des années plus tard, peu de progrès ont été réalisés selon Olanian Sanusi, responsable de programme à l'organisation à but non lucratif Yaga Africa, l'un des groupes pro-démocratie ayant plaidé en faveur de la loi.
Malgré l'entrée en vigueur de la loi Not Too Young to Run Act, les jeunes ont encore des difficultés à mettre en œuvre et à tirer parti de cette modification de la Constitution. Nous avons une série de programmes qui visent à préparer les jeunes qui ont manifesté de l'intérêt à se présenter à des fonctions politiques et il s'agit essentiellement de renforcer leur capacité à mener des campagnes axées sur des questions précises.
Mais en février de cette année, des groupes de la société civile et des leaders de la jeunesse, de divers partis politiques, se sont réunis à Abuja pour exiger l'inclusion de 35% des jeunes dans les rôles électifs et nominatifs. Ils ont également recommandé l'exonération des jeunes candidats quant aux frais d'inscription. Mais pour l'instant, de nombreux jeunes auront du mal à gagner un concours de popularité face à des systèmes qui, selon eux, favorisent un ordre plus ancien.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'ancien président américain Donald Trump s'est exprimé dimanche sur la possibilité d'être condamné à une peine de prison le mois prochain après sa condamnation pour falsification de documents commerciaux. Le verdict de culpabilité est déjà utilisé par les campagnes de M. Trump et de M. Biden pour enflammer leurs partisans respectifs. Les détails avec Veronica Balderas-Iglesias, le récit avec Lionel Gleyma.
Il est certes le premier président américain à être condamné au pénal, mais la popularité de Donald Trump ne faiblit pas du tout. Selon l'un de ses avocats, Will Schaaf, interviewé dimanche dans l'émission This Week sur ABC.
La campagne Trump a manifestement battu des records de collecte de fonds en politique, notamment auprès de dizaines de milliers de nouveaux donateurs dans les 24 heures qui ont suivi ce verdict. Je pense que le peuple américain voit ce jugement pour ce qu'il était et nous espérons certainement qu'en appel, nous pourrons le faire annuler.
Au cours du procès, les procureurs ont soutenu que Donald Trump a falsifié des documents comptables pour influencer illégalement le résultat de l'élection de 2016 qu'il a remporté. Le verdict de culpabilité ne va pas aider Donald Trump sur le plan politique, en particulier auprès des électeurs africains-américains, déclare le gouverneur du Maryland, Wes Moore, un démocrate qui est apparu sur ABC.
Ce qui va toucher l'ensemble de la communauté, c'est d'avoir une personne, président comme le président Biden, qui se préoccupe réellement de notre avenir.
Dans une interview exclusive diffusée dimanche sur Fox & Friends, Donald Trump s'est exprimé sur la possibilité d'être condamné à une peine de prison ou à une assignation à résidence le 11 juillet.
Je ne sais pas si le public le supporterait. Vous savez, je ne suis pas sûr que le public le supporterait. Je pense qu'il serait difficile pour le public de le supporter. Vous savez, à un certain point, il y a un point de rupture.
La campagne de Joe Biden a publié un extrait de l'interview sur X avec la légende suivante. Trump, condamné pour crime, suggère qu'il y aura de la violence s'il est assigné à résidence. Alors que le président américain Joe Biden devrait s'en tenir à son message selon lequel personne n'est au-dessus de la loi, sa campagne pourrait de plus en plus utiliser le verdict de culpabilité pour attaquer la personnalité du présumé candidat républicain, explique Susan Starks, politologue à l'Université de Chicago, interrogée par Skype.
Son désir d'utiliser son argent, son pouvoir et son influence pour éviter d'avoir à rendre des comptes, on peut s'attendre à ce qu'il se concentre sur ce genre de choses.
Au lieu de juste satisfaire sa base, la campagne de Trump ferait bien de peaufiner sa stratégie pour gagner d'autres électeurs, selon la politologue Susan Starks.
Peut-être des femmes de banlieue qui pourraient être un peu hésitantes sur ce qu'il faut faire en novembre prochain et qui ont besoin qu'on leur donne une raison de regarder au-delà de ce verdict.
Les deux candidats devraient continuer à tenter de convaincre les électeurs indécis à l'approche du premier débat présidentiel prévu le 27 juin.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée à tous.